histoire particulière. Celle que l'on surnomme la Dame d'Izieux, c'est Sabine Zlatin. Son nom est indissociablement lié à celui de ce petit village de l'Ain. À partir de mai 1943, elle y dirige une colonie d'accueil d'enfants juifs. Dans ce lieu, elle tente, avec l'aide de son mari, d'offrir aux enfants une vie et une scolarité aussi normale que possible. Mais le 6 avril 1944, cette aventure humaine prend fin de manière tragique avec la rafle par les nazis de 51 personnes, dont 44 enfants. Après le drame, Sabine Zlatin se consacre au combat pour la mémoire et à l'ouverture d'un musée mémorial dédié aux enfants. Son engagement rayonne aujourd'hui au-delà d'Izieux.
Sur les conseils du chef de maquis, colonel Roman Petit, mon mari et moi, ainsi que les éducateurs, avons pris la décision de disperser les enfants après Pâques. Je me trouvais à Montpellier pour chercher des placements. Les enfants sont tous morts à Auschwitz. Mon mari et deux adolescents, Théo et Arnold, ont été fusillés par les Allemands le 31 juillet 1944. La monitrice Léa Feldblum est revenue de la déportation.
Sabine Zlatin, la dame de la maison d'Izieux.
La Dame d'Izieux, un documentaire de Federico Polo Devoto et Yael Mandelbaum. Second épisode, le combat pour la mémoire.
Quand la maison est raflée, elle n'est pas là, elle est à Montpellier. Et elle reçoit un télégramme, famille malade, maladie contagieuse, quelque chose comme ça. Donc elle comprend tout de suite qu'elle ne doit pas retourner à Izieux.
Simon Pintel, vice-président de la maison d'Izieux.
Donc elle y retourne, je crois, dans les faits, 3 semaines après. J'ai un doute là-dessus. Mais, parce qu'il me semble, dans ce qu'elle me racontait, qu'elle y retourne quelques jours. Elle sait que la résistance, elle l'a contacté, la résistance, qui lui a dit, ne revenez pas tout de suite, parce que la maison est sous surveillance, les Allemands sont toujours là. Mais comme elle dit qu'elle... Alors, je ne sais pas, finalement, la chronologie, c'est à vérifier. Peut-être que dès qu'elle apprend ça, elle va à Vichy, et puis elle essaie de les sauver. Elle dit qu'elle a un faux nom, elle donne sa vraie identité. Ça, elle le raconte dans ses mémoires. La personne qu'elle rencontre lui dit « Mais qu'est-ce qui vous a pris de vous occuper de ces sales loupins? Partez, sinon je vous arrête. » Donc elle peut rien faire, mais en tout cas, elle prend ce risque-là. Et puis elle retourne peut-être après donc à la colonie, elle récupère là les documents, mais elle peut pas faire plus que ça.
Et donc elle revient de manière discrète, on va dire, à minima, à la maison, où elle, effectivement, son premier mouvement, c'est de...
Stéphanie Boissard.
Récupérer tous les documents qu'elle trouve. La maison a été un peu mise à sac, c'est-à-dire que c'est une maison qui a été...
Archiviste de la maison d'Izieux.
Pillée, passée à sac, on cherchait l'argent, on cherchait des choses de valeur. Donc les dessins, les papiers administratifs, elle ramasse tout ce qu'elle trouve. Elle le met dans des caisses, des boîtes, et ensuite elle le dit, elle n'y touche plus. Elle n'y touche plus jusqu'au procès Barbie, parce que c'est pour elle trop difficile de faire face à ces documents qui rappellent la maison. Voilà. Et ensuite, elle va s'engager dans la résistance à Paris.
On sait aussi qu'après ça, elle va aller au Lutetia, où elle va aussi s'occuper un peu de l'accueil des déportés, avec le secret espoir de retrouver Miron et des enfants.
Oui. Alors ça, c'est des sentiments très ambivalents, parce qu'elle est très fière d'être choisie par De Gaulle. Ça, elle le dit d'ailleurs dans les documents que l'on a récupérés. Il y a effectivement cette lettre qui lui donne la direction logistique de l'hôtel Lutetia.
Eh bien, avant tout, j'aimerais que les personnes qui m'entendent à la radio, qui ont une pensée pieuse pour ceux qui n'ont sont pas revenus. C'est le général de Gaulle, avec les ministres anciens combattants Henri Frenay, avec le révérend Père Chaillet, avec Agnès Bidault, avec ma chère amie Dorine Mantoux, avec Monique Frello. On nous a donné feu vert prendre possession de l'Utéchia. C'était un hôtel, comme vous savez, de luxe. Il y avait 600 chambres. Nous nous sommes trouvés devant des problèmes de préparation pour l'accueil de ces déportés qui devaient arriver.
Donc elle est très fière d'organiser ça. En plus, c'est à Paris, qui est une ville qui lui appartient, quoi. C'est là qu'elle veut vivre. Et elle cherche à avoir des informations qu'elle a petit à petit, quoi. Dont la confirmation que son mari a été assassiné avec deux autres enfants d'Izieux, mais qui étaient des adolescents, des grands adolescents qu'on prenait pour des jeunes hommes, qui n'ont pas été déportés directement à Auschwitz, oui.
Il était dans une forteresse avec les deux grands garçons. Il a travaillé dans un moulin. Il rentrait au soir avec des poches pleines de farine pour distribuer aux autres, pour se nourrir.
Il était avec deux grands garçons d'Izieux.
Des grands garçons, oui. Et puis un beau jour, ils sont partis comme d'habitude pour travailler au moulin. Ils ne sont pas revenus. Il était fusillé le 31 juillet. Les jours de notre mariage. Nous sommes mariés en France, à Nancy, le 31 juillet 1927. Il venait obtenir son diplôme d'ingénieur agricole avec la médaille d'or. Oui. Et il faisait n'importe quoi pour sauver les enfants. C'est pas parce que c'était mon mari, mais vraiment, il était admirable.
Dominique Vidot, dans l'après-guerre, il y a une première date importante, c'est le procès international de Nuremberg.
Ce qui relie la rafle d'Izieux au procès de Nuremberg. En 1946, le 5 février précisément, un procureur français de la délégation française à Nuremberg, Edgar Faure, lit le fameux téléx dans lequel Klaus Barbie racontait la rafle qu'il avait ordonné. Il lit, il fait lecture devant la cour et il explique, voilà, cette description froide, méthodique, hein, d'une rafle qui visait avant tout les enfants est considérée par la délégation française comme une preuve manifeste d'un crime contre l'humanité. On sait qu'à Nuremberg, la tâche la plus difficile a été non seulement de définir ce qu'est un crime contre l'humanité, mais aussi de le documenter. Et le téléx de Barbie devient une preuve documentée d'un crime contre l'humanité commis en Europe occidentale.
Après ça, il y aura un premier acte de mémoire qui va être la stèle. On est à quelques kilomètres à Brigny-Cordon. Et la plaque qui a posé sur la maison, c'est une grande cérémonie avec beaucoup de personnes qui assistent. C'est le premier acte dans son combat pour la mémoire.
Stéphanie Boissard.
Oui, c'est vrai que pour Sabine Zlatin, ce qui était vraiment, vraiment important, mais on sent à quel point ça la préoccupait, je pense, c'est ne pas oublier. C'est-à-dire, ce qui s'est passé à Izieux, elle a une terreur, vraiment. C'est que ça passe dans les, entre guillemets, pertes et profits de la guerre, en somme, et que ça ne laisse pas plus de traces que cela. Et dès juillet 45, elle demande au préfet de l'Ain la permission de mettre une plaque sur la maison rappelant le nom des enfants et ce qui s'est passé le 6 avril. Et donc, effectivement, cette première demande va être le début d'un geste de la première mémoire qui va être vraiment posée sur la maison et sur le territoire. Et on érige un monument à Brignecordon en bas, donc à un kilomètre à peu près d'ici. Et là, elle va réussir quand même un tour de force et de mobiliser toute une administration de Belley, mais aussi elle va faire en sorte qu'un ministre, le ministre de la guerre, Laurent Casanova, se déplace à Izieux pour marquer cette inauguration et ces monuments. Et elle va réussir à les mobiliser pour venir à Izieux et faire d'Izieux un lieu où à peu près 3000 personnes vont se réunir. Elle arrive à faire des prouesses en termes de mobilisation assez remarquables.
Enfin, c'était un événement énorme. Organisée en grande partie par elle. C'est elle qui dessine la stèle qui est à Brignecordon.
Simon Pintel.
Ça, c'est son genre. Elle va s'impliquer, elle va faire les choses, elle va forcer les portes, elle va imposer des choses. C'est sur totalement son initiative avec l'aide, parce qu'elle s'entourait toujours de gens qu'elle choisissait plutôt bien pour l'aider et lui permettre d'ouvrir des portes, qu'elle organise tout ça. Et ensuite, alors j'ai pas les détails exactement, chaque année, elle y retourne et elle vient déposer des fleurs sous la plaque en emmenant ses amis. Et elle parle à son niveau de cette histoire ponctuellement, pas tout le temps, mais ponctuellement. En tout cas, elle n'oublie pas, elle y retourne. Ça, après, ça passe en sourdine, quoi. C'est son rendez-vous. D'ailleurs, elle achète une maison un peu plus tard dans la région, à Césarieux. C'est une femme pleine de ressources. Elle a toujours été. Elle fait des choses. Alors, elle fait en fonction de ce qui l'intéresse. Donc, elle a fait des études d'histoire de l'art. Elle est peintre. Elle s'investit dans le Salon des Indépendants pour développer cette possibilité d'exposer dans des lieux prestigieux comme le Grand Palais. Et voilà, elle n'est pas que peintre dans cette histoire-là, elle organise un peu les choses. Elle s'intéresse à la librairie ancienne, donc l'art, le spectacle, le cirque, la danse et les marionnettes. Et elle dit, enfin elle me raconte ça, qu'elle apprend le métier. À l'époque, elle l'apprend, elle aime les livres, je crois. Elle rencontre un libraire qui lui dit, devenez libraire. Enfin, les choses semblent très simples à ce moment-là. Elle devient libraire et elle devient experte. Reconnue comme experte pour évaluer des bibliothèques de livres anciens, dont les plus anciens doivent dater du 14e ou du 15e siècle. L'essentiel de ses revenus, elle les produit avec cette librairie qui fonctionne très bien à domicile. Est-ce que je peux ajouter qu'on ne dit pas, c'est que après Izieux, elle reprend sa vie, quoi. Elle vit d'abord campagne première après la guerre parce que c'est un atelier d'artiste. Elle vit dans un atelier d'artiste et on sabre le champagne quand même. C'est-à-dire qu'elle a aussi réussi, malgré cette tragédie terrible, à refabriquer une troisième partie de vie. Je sais pas comment on peut dire. La première partie, c'est la Pologne qu'elle fuit. La deuxième, c'est le nord de la France. Elle a pas du tout sa place là-dedans. On la voit en photo au milieu des poules avec ses bottes en caoutchouc. Et donc, dès qu'elle peut, elle part à Paris pour apprendre la peinture. Il y a son engagement pendant la guerre. Et après la guerre, il y a la librairie, il y a la peinture et il y a l'environnement intellectuel dans lequel elle gravite quand même. Elle vit comme ça. Elle vit avec Yvette Rutschmann et elle voyage et elles ont une vie riche et relativement heureuse, il me semble, avec évidemment régulièrement les commémorations, la commémoration, le retour à Izieux. Et elle montre qu'elle vit avec cette tragédie. Elle a réussi à vivre avec cette tragédie. Et donc moi, je la rencontre au moment où la tragédie reprend toute la place dans sa vie. Et à l'époque, son ami Yvette Rutschmann disait qu'elle a beaucoup changé quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même là la tristesse et la dépression se réinstallent, mais sur un mode actif. Elle en fait quelque chose. Mais en tout cas, la légèreté qu'elle a réussi à retrouver après la guerre, elle redisparaît doublement parce que c'est aussi la fin de sa vie, avec le retour à Izieux.
Et ce procès, c'est un procès de la vérité, enfin. Parce que c'est moi qui l'ai fait la maison avec mon mari. C'est nous qu'on a eu les enfants. C'est moi que je suis sortie les enfants des camps, de Vichy. Pour les crimes pareils, il n'y a pas ni pardon, ni oubli.
Dominique Vidot, en 1987, le procès Barbie s'ouvre. Comment est-ce que Sabine Zlatin, elle apprend que ce procès va avoir lieu et comment elle s'y prépare?
Alors, elle l'apprend par les Klarsfeld. Hein. Ceux qui sont vraiment les maîtres d'œuvre du procès Barbie, c'est le couple des Klarsfeld. Il est certain que quand on veut reconstituer la mémoire de la rafle, Sabine est l'acteur numéro un. Le procès de Nuremberg est l'acteur numéro deux. Hein. C'est un peu comme les lieux de mémoire, il n'y a pas que des, voilà, pas que des lieux, il peut y avoir aussi des procès. Et puis, les acteurs numéro 3, c'est Beate et Serge Larsen, indéniablement. Et Sabine va apprendre, comme tous les Français, par une nouvelle à la radio et à la télé, de l'arrestation de Klaus Barbie en Bolivie. Et c'est à partir de là qu'elle va se mobiliser. Et ensuite, elle va être pleinement associée à ce procès. Alors, il est vrai que son témoignage a laissé une empreinte très très forte. Enfin, quand on se souvient du procès Barbie, on se souvient forcément de la prise de parole de Sabine.
Je vais vous dire. Et je vais dire surtout à la défense de Barbie. Que Barbie a toujours dit qu'il s'occupait uniquement des résistants et des maquisards. Ça veut dire des ennemis de l'armée allemande. Je demande les enfants, les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants? C'était des maquisards? Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents!
Jusqu'au procès Barbie, j'ignore totalement que je suis passé par la maison d'Isieux. Donc, procès Barbie.
Samuel Pintel.
Chef d'accusation, donc crime contre l'humanité, en particulier envers un groupe d'enfants d'une colonie, Isieux. Bon, très bien. Des maisons d'enfants arrêtées, d'enfants juifs arrêtés, et il y en a eu d'autres. Bon, très bien. Isieux, ça ne me dit absolument rien. Par contre, lors des comptes rendus d'audience, à la télévision, je regarde. Et là, on aborde les enfants d'Isieux, la maison. Alors, la maison, c'est la première image que j'ai, c'est le pas de porte avec les deux propriétaires de l'époque qui sont interviewés. Donc, l'encadrement me dit quelque chose. Bon, sans plus. Bon. Et puis, quelques jours passent, autre compte-rendu d'audience. Et là, on élargit le cadre. Hein. On va sur la terrasse, on va sur la fontaine. Et puis on va sur le bâtiment annexe, il servait de dortoir. Évidemment, là, je reconnais les lieux. Et donc, c'était Isieux. Donc, je suis passé par la maison d'Isieux. Et je ne le savais pas. Et puis, j'ai en tête, comme j'ai fait, de retrouver les lieux par lesquels je suis passé avec ma mère, que j'ai retrouvé. Et je vais faire la même chose, je vais me rendre à Isieux et je trouve une maison vide, clôturée. Une plaque sur le mur au loin qui porte des noms. Je m'adresse à la bâtisse qui est juste à côté. Je rencontre la propriétaire et je lui dis, je suis passé à l'époque par la maison d'Isieux. Je lui demande s'il reste des témoins. L'ancienne directrice qui n'était pas présente le jour de la rafle. Je lui demande, bon, ben, éventuellement, vous pouvez me communiquer un lien. J'aimerais la rencontrer, quoi. J'aimerais bien connaître la date de mon départ, celle de l'arrivée, je la connaissais. Également, mon cahier, j'avais un cahier, j'ai essayé de me retrouver mon cahier. Et puis, alors ça m'intéressait beaucoup plus, me rappeler le nom de mon petit copain avec lequel nous étions arrivés. Et j'avais totalement oublié son nom. Je rencontre Madame Salatin, et je lui racontais l'anecdote de mon transfert de Chambéry à Isieux, tiré par la carriole. Ah, mais oui, mais c'était mon Miron. Et elle me parle de ses activités, de ses projets, elle envisage d'acheter la maison. Bon, très bien, moi je suis pas dans le coup. Je viens avec des questions très précises, et elle me répond pas. Elle me dit, je n'ai rien, c'est mon Miron qui gérait, les papiers, on ne les a plus. Ceux qui étaient dans la maison ont été dispersés lors de la rafle, détruits en particulier, je n'ai rien. Donc très déçu, je la quitte. 2 mois après, Madame Zatin me rappelle, en me disant, j'ai retrouvé une lettre dans mon écritoire, une lettre de mon Miron, dans laquelle figurent 2 prénoms, les enfants, Marcel et Samuel, arrivés le 18 novembre. Prend les tickets d'alimentation. Bon. 2 mois après, Madame Zatin me pèle à nouveau en me disant « J'ai encore retrouvé une autre lettre dans laquelle figurent vos 2 noms, Marcel Greenblatt et Samuel Pintel. » Et Mme Zadin va prendre pour habitude de m'appeler, et de m'appeler de plus en plus souvent. Elle me disait, vous êtes un de mes petits, nous avons besoin de dons, il faut racheter la maison, c'est très cher, nous n'avons pas l'argent, il n'y a pas d'engagement par ailleurs, vous allez nous accompagner, vous êtes un des anciens, un de nos petits. Mme Zadin, je n'ai pas le temps, mais je ne peux pas, j'ai des choses à faire, je travaille, mais il faut venir. Et, voilà. Et elle me convie, comme elle me convie à participer à un conseil d'administration, préparation d'un conseil d'administration qui a lieu chez elle, à son domicile, elle habite rue Madame, près du Luxembourg. Bon, très bien. J'aimerais bien que vous fassiez, que vous preniez des notes et vous fassiez un compte-rendu. Il n'y a jamais personne pour faire le compte-rendu de la réunion. Donc, je me rends à cette réunion, je rencontre le procureur Truche, je rencontre les avocats, son avocat lors du procès Barbie, maître Roland Rapaport, les maires de Brignais-Cordon et de Dizieux, qui d'autres, Simone Lagrange, déportée, l'ami de Madame Zlatin, Gemmeling, enfin bon, bref, des personnes importantes. Et moi, je débarque là-dedans, ancien enfant passé par la colo, je me fais petit, quoi. Bon, bref. Jusqu'au jour, elle me dit également, vous êtes ma famille spirituelle, j'aimerais bien connaître votre famille. Avez-vous des enfants? Oui, j'ai 3 enfants, que font-ils? Bon, il y en a un en particulier qui fait les études de sociaux, il est pas loin de chez vous, il est à la Sorbonne. Ah, mais présentez-le-moi. Bon, chose faite, j'amène Simon, rencontre Madame Zlatin qui d'emblée lui dit « J'ai une proposition à vous faire, j'ai besoin d'un petit secrétaire, d'un secrétaire, comme elle était encore active, hein, elle était experte en livres anciens, elle commerçait, elle avait besoin, bien entendu, des services d'un petit secrétaire. »
Simon Pintel, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles conditions vous avez connu Sabine Zlatin ?
Je la rencontre en septembre 91. L'association est créée, le projet du musée est vraiment confirmé. Et elle a, après la rafle, elle est revenue sur les lieux à Isieux et elle a récupéré des tas de choses, et notamment beaucoup de dessins des enfants, des lettres et tout un tas de documents administratifs. C'est pas énorme non plus qu'elle a récupéré. Entre 200 et 250, il me semble, le dessin compris, ça devait rentrer dans une petite valise, quoi. Enfin, elle avait gardé tout ça toutes ces années. Entassée, c'était son style, elle entassait beaucoup de choses, elle travaillait chez elle, elle était libraire, elle avait une pièce qui était son bureau, c'était un capharnaüm dans lequel elle se retrouvait très bien, mais les dessins c'était la même chose, quoi. C'était rangé dans son salon, dans un petit meuble, elle a pris la pile des documents, elle a mis ça sur sa table de salon, avec le projet de devoir inventorier, d'écrire tous ces documents. Au départ, elle savait pas tout à fait ce qu'elle voulait en faire, en tout cas c'était évidemment pour l'utilisation au musée, et elle voulait pas le faire seule. Je crois même qu'elle voulait pas le faire du tout, parce qu'elle disait c'est trop lourd de souvenirs. Ça, c'était ses mots et son expression. Et puis, je crois que c'était aussi dans cette idée qu'elle a eu, en tout cas longtemps, de transmettre cette histoire aux plus jeunes. Et donc, j'ai commencé 2 fois par semaine, c'était le mardi et le jeudi après-midi, à inventorier ces documents, et puis sous son contrôle, quoi. C'était une grande penseuse sur son lit. Elle était dans sa chambre, face à sa télévision, elle venait de se faire revendre, en lui forçant un peu la main, le câble, et donc elle était branchée sur LCI à longueur de journée, mais ce qui lui allait très bien, parce qu'elle voulait être toujours au courant de tout ce qui se passait dans le monde, et en fonction, elle voulait avoir un contrôle sur le monde. Alors elle prenait son téléphone, elle essayait d'appeler les bonnes personnes, toujours dans cette idée que ça devait servir Isieux, plus ou moins. Et donc moi j'allais la voir tous les quarts d'heure avec un beau descriptif qu'elle annotait, qu'elle corrigeait, et puis au bout d'un moment je voyais comment elle voulait que je fasse, et c'était un peu plus rapide.
Est-ce qu'en dehors du matériel, des dessins, des textes, des documents que vous avez récupérés, est-ce qu'elle parlait un petit peu de ce qui s'était passé à Isieux ?
Oui, alors elle en parlait un peu tout le temps quand même, et pas qu'à moi. Je la rencontre dans un moment où y a une énorme effervescence autour de la création de la maison et du musée. Et tout se passe plutôt très bien et de façon inespérée, puisque François Mitterrand s'engage auprès de l'association et fait de ce projet un de ses grands travaux. Alors elle, qui était socialiste depuis l'âge de 16 ans et qui l'est restée absolument jusqu'au bout, c'était extrêmement important. En plus, elle l'estimait énormément. Voilà, son engagement était en plus une reconnaissance de l'existence de son drame personnel à un tout autre niveau. Donc c'était un très très grand moment pour elle, je pense, de réparation. Et comme je l'ai connue jusqu'à la fin de sa vie, elle était à ce moment-là plutôt bien, en colère, combative comme elle a toujours été, mais dans quelque chose de plutôt du côté de la vie. Et alors là où je l'ai trouvé vraiment au summum de sa forme, parce que je la rencontre, elle a 82 ans, elle est quand même marquée par les années, elle marche avec une canne, elle est quand même souvent fatiguée, mais au moment de l'inauguration du musée en 1994, alors vraiment elle est très pertinente, elle est très vive sur tous les fronts et elle est très bien.
C'est un aboutissement. On a fait une souscription nationale et internationale pour acheter la maison sous le haut patronage du président de la République, François Mitterrand. Et on a recueilli à peu près 4000 chèques. Et je trouve que c'est le peuple de France qui a acheté la maison.
En 1994, la maison est inaugurée. C'est l'aboutissement d'un combat pour Sabine Zlatin, qui est déjà âgée et qui va décéder, je crois, 2 ans après.
Madame Zlatin décède en 96, effectivement. Mais il faut bien noter qu'elle était très présente à Isieux. Hein, c'était vraiment pour elle important. Et elle rencontrait les jeunes, hein, les classes, par exemple. Elle aimait bien. On a quelques photos. Elle est devant la terrasse. Et puis, il y a un parterre de jeunes.
Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes d'aujourd'hui, Madame Zlatin ?
Avant tout, la vigilance. La vigilance avec ce qui se passe maintenant. J'appelle aussi qu'on vient nombreux à Isieux et que tout le monde aide à vivre Isieux. C'est très important.
C'était La Dame d'Isieux, second épisode, Le combat pour la mémoire. Avec Stéphanie Boissard, archiviste de la maison d'Isieux, Cathy Azan, historienne, Samuel Pintel, ancien enfant de la colonie, Simon Pintel, vice-président de la maison d'Isieux, et Dominique Vidot, directeur de la maison d'Isieux. Lecture, Antoine Leca. Merci à la maison d'Isieux, au musée d'art et d'histoire du judaïsme, et à la Bibliothèque nationale de France. Prise de son, Johanna Gabric. Mixage, Manuel Couturier. Documentation INA, Emmanuel Luciani. Coordination, Christine Bernard. Attaché de production, Sylvia Favre. Un documentaire de Federico Polo Devoto, réalisé par Yaël Mandelbaum.